On reçoit aujourd'hui Françoise Bagnot et Lydie Poré. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Françoise Bagnot, vous êtes membre d'Histoire du féminisme à Rennes. Et Lydie Poré, vous travaillez aux archives de Rennes et vous avez récemment écrit un ouvrage sur l'histoire du féminisme à Rennes dans les années 1970. Vous êtes donc toutes les deux spécialistes du féminisme à Rennes, ou en tout cas militantes dans ce milieu-là. Qu'est-ce que cette ville a de particulier pour le féminisme? Qu'est-ce qui s'est passé de particulier à Rennes? Vous avez été militante pendant longtemps pour certaines d'entre vous. Qu'est-ce que les combats qui ont été menés à Rennes ont de particulier?
Alors, je ne sais pas si les combats sont particuliers. Peut-être ce qu'on peut dire comme particularité, c'est que jusqu'à il y a peu, l'histoire des mobilisations féministes à Rennes n'était pas si bien connue. Donc, c'est une sorte de particularité négative. Et aujourd'hui, elle est beaucoup mieux connue. Et ça a permis de se rendre compte qu'en fait, ce qui s'est passé à Paris ou dans d'autres villes, souvent, c'est aussi passé à Rennes. Donc, ce soit une création de planning familial, les mobilisations pour le droit à l'avortement, l'égalité professionnelle, etc.
Vous, Lydie Poré, vous avez travaillé sur les années 1970. Qu'est-ce que ces années-là ont de spécial pour le féminisme en général, hein, pour la France en général d'ailleurs? C'est le moment où plusieurs droits sont acquis, notamment celui d'avorter en 1975, grâce à la loi Veil, ou encore le divorce à consentement mutuel. Qu'est-ce qui se passe en France dans ces années-là, post-68?
C'est une période de grande conquête, et je vais pouvoir passer la parole à Françoise.
Oui, parce qu'en fait, on parle souvent de la loi Veil. Mais en fait, ce sont d'abord les mobilisations féministes qui ont fait qu'il a fallu se poser la question. Parce qu'il faut se rappeler que les interventions de Madame Veil, au départ, étaient liées à une question de santé et n'étaient pas sur le registre, Lydie m'arrêtera, mais n'étaient pas sur le registre du droit des femmes à disposer de leur corps et à maîtriser la contraception et leur fécondité. Donc, ce n'est pas tout à fait pareil. Il faut se rappeler aussi que la loi, elle a été votée que pour 5 ans. Et que donc il a fallu remettre d'autres mobilisations. Et encore aujourd'hui, cette loi n'est pas appliquée partout, puisqu'il y a un manque de moyens, il y a des fermetures de centres d'IVG, et que au niveau du planning familial, par exemple, il y a toujours une récolte de fonds pour pouvoir aider des femmes à aller avorter à l'étranger, parce qu'en France, il y a ce qu'on appelle des déserts médicaux par rapport à cela aussi. Donc ce droit-là, c'est une conquête, mais il est toujours à remettre en avant. Et je ne vais pas trop évoquer ici toutes les attaques des lobbies anti-choix qui sont toujours en train de venir mettre en cause cet acquis. On parlera tout à l'heure peut-être un peu plus tard de ce que représente l'entrée dans la Constitution. Mais ce qui m'a frappé là, par exemple, dans les manifestations du 8 mars, donc avant-hier, c'était de retrouver des slogans et des chants et une mobilisation et un dynamisme très important sur ces questions-là de conquête des droits pour les femmes.
On le sait, justement, on a parlé de la loi Veil, mais avant la loi Veil, il y avait des avortements clandestins et des associations qui s'organisaient pour aider les femmes qu'ils voulaient à le faire ou alors aller à l'étranger. Quelles étaient les associations, peut-être à Rennes, qui pouvaient aider? Comment s'organisaient-elles à cette époque-là?
Alors, comme dans d'autres villes de France, il y a eu à Rennes un groupe Choisir qui, en fait, a été la jonction entre plusieurs groupes. Un groupe de militantes féministes sur lesquelles on n'a hélas pas beaucoup retrouvé d'informations. Donc, j'en profite pour faire un appel à témoignages, à sources, à archives. Sur ce groupe-là. Donc ça a été la jonction entre ce groupe, un groupe de jeunes étudiants et étudiantes en médecine qui étaient militants. Donc on est là en 1972-1973. Et un dernier groupe de militants et de militantes maoïstes. Tout ce monde-là s'est rencontré sans doute à l'occasion de la grève de médecine dont on célèbre d'ailleurs les 50 ans. Là, c'était début 1973. Et certains s'étaient déjà formés à la méthode d'avortement par aspiration, dite méthode Karman. Et donc, ensemble, on crée un groupe Choisir. Alors, Choisir, en fait, c'était une reprise du nom de l'association de Gisèle Halimi, Choisir la cause des femmes, qu'elle avait créée avec d'autres femmes à l'occasion de la sortie du manifeste des 343 femmes qui avaient déclaré vouloir avorter en 1971. Et à cette époque-là, 71, 72, 73, c'était la seule association revendicative sur la question du droit à l'avortement. Donc ce groupe, même si son fonctionnement, sa philosophie, ses objectifs, ses manières de faire, sa manière de voir les choses très, très à gauche était très différente de l'association Choisir de Gisèle Halimi, qui elle employait le terrain du droit hein, pour faire avancer la question du droit à l'avortement, ce groupe a quand même choisi le nom de Choisir. Et ces militants et ces militantes avaient plusieurs modes d'action, occupaient la rue notamment, il y avait beaucoup d'occupations de rue avec des distributions de tracts, faisaient savoir que le groupe existait, que des permanences d'accueil se tenaient chaque semaine le samedi matin au 13 de la rue Saint-Michel. Donc il y a toujours cet endroit qui existe même si l'accès est moins facile aujourd'hui. Et faisaient savoir qu'ils étaient en capacité d'aider, d'accompagner les femmes, de leur donner des informations, en tout cas les femmes qui souhaitaient mettre fin à une grossesse, soit de leur donner des informations pour qu'elles puissent partir avorter en Angleterre ou en Hollande, où là c'était possible et légal, soit leur faire bénéficier d'un avortement sur place grâce à cette fameuse méthode d'avortement par aspiration.
Et ben on va continuer à parler d'avortement, mais on va écouter d'abord un petit extrait.
À l'Hôtel Dieu, je dois dire que ça s'est très bien passé parce que moi-même, j'étais dans un milieu assez favorisé d'un groupe de femmes, donc où je connaissais le médecin qui allait me faire l'avortement et puis qui a pris le temps et les précautions psychologiques nécessaires pour que ça se passe dans les conditions les plus idéales possibles. Mais il reste quand même que les délais sont très courts ici à l'Hôtel Dieu. Bon, et quant au personnel, enfin moi, je dois trop rien dire parce que j'ai été bien accueillie. Mais il paraît que c'est pas toujours comme ça. Et puis les femmes sont souvent prises de court parce que si on compte les délais de l'Hôtel Dieu, en fait, il y a 15 jours à tout casser pour découvrir d'abord qu'on est enceinte, à supposer qu'on trouve un médecin qui veuille bien le découvrir du premier coup si ça lui est possible.
On vient d'entendre le témoignage d'une femme qui a avorté en 1979 à l'hôpital de Rennes, qui était encore à l'Hôtel Dieu à l'époque. Elle témoignait dans le cadre d'un reportage sur la loi Veil à son deuxième passage à l'Assemblée nationale après les 50 tests. Elle le dit, il y a eu des difficultés à Rennes particulières et en Bretagne en général d'ailleurs pour appliquer la loi Veil. Qu'est-ce qui explique ces difficultés-là peut-être, Françoise Bagnot?
Alors moi je ne suis pas historienne, hein, donc, mais sur le plan on va dire de ce qu'on en a compris, c'est que Rennes fait partie d'une Bretagne assez traditionnaliste, empreinte de catholicisme. Et donc avec des freins, on va dire, à l'émancipation des femmes, comme sur d'autres terrains d'ailleurs, mais puisque là on parle de ça. Et donc c'est vrai qu'il y a eu maintes et maintes difficultés qui existent encore aujourd'hui quand même. Hein, il n'y a pas si longtemps, il y avait des prières devant le centre... Comment on appelle ça ?
Le centre IVG.
Le centre IVG. Voilà, il y a eu des manifestations pour empêcher ces gens de se mettre à genoux et de venir invectiver les femmes qui venaient. Enfin, c'est, donc voilà, moi il me semble que c'est une des causes premières, c'est donc cette prégnance de la religion catholique et de forces traditionnalistes, très très, de mon point de vue en tout cas, réactionnaires par rapport aux droits des femmes. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Oui, tout à fait. Et en complément, on peut aussi dire qu'à Rennes, comme dans d'autres villes, il y avait aussi une très très forte opposition des chefs de service de gynécologie obstétrique. Et donc, eux aussi ont beaucoup freiné à la mise en place et à l'application de la loi Veil. Donc, quand on a fait nos recherches avec Patricia Godard, qui est co-autrice du livre « Les femmes s'en vont en lutte », on a compris qu'à Rennes, le centre IVG avait pu ouvrir en avril 1975. Donc, soit 3 mois après la promulgation de la loi Veil. On trouvait que c'était tard, et effectivement, c'est tard parce que, en fait, c'est toujours comme ça avec les droits, et en particulier les droits des femmes et des minorités, c'est-à-dire que conquérir un droit, c'est très bien, il est inscrit dans la loi, mais ensuite il faut conquérir son application et sa mise en œuvre. Et en fait, en creusant un peu plus et à l'occasion d'autres recherches, on a pu voir que Rennes, finalement, n'était pas si en retard par rapport à d'autres villes, par rapport à Nantes, Lyon, Lille ou Marseille. Finalement, il y a eu des difficultés sur l'ensemble du territoire pour l'ouverture de ces centres IVG.
On a parlé du coup justement de cette Bretagne peut-être un peu réactionnaire à l'époque, en tout cas dans les années 1970. Et donc c'est à partir des années 80 que beaucoup de groupes se sont organisés, à Rennes notamment, pour tenter de faire changer les idées après avoir fait changer la loi. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ces groupes qui ont tenté de faire changer les mentalités dans ces années 80 et comment est-ce que ça se passait? Comment est-ce qu'on se mobilise pour bouleverser les idées en place et les idées réactionnaires qui existaient sur le territoire breton et à Rennes peut-être?
Eh ben, par exemple, ces mobilisations, en fait, elles sont souvent faites par des femmes qui militaient dans les années 70 dans les groupes femmes. Donc voilà, c'était aussi une caractéristique qu'on a retrouvée à Rennes. Alors peut-être vous me parliez d'une particularité. À Rennes, par exemple, on n'a jamais trouver de traces de la mention MLF, Mouvement de Libération des Femmes. Toutes les actrices qui étaient engagées à l'époque parlaient de groupes femmes, de mouvement des femmes. Donc ça, c'était un apport intéressant de notre recherche, c'est-à-dire que MLF, c'était pas du tout partout sur le territoire. Et ces femmes qui avaient milité donc dans ces groupes de parole, groupes de conscience, groupes d'action dans les années 1970, au début des années 80, elles se sont investies dans d'autres formes d'engagement à travers, par exemple, la mise en place de crèches parentales. Voilà, les premières crèches parentales à Rennes, en tout cas, ont été à l'initiative de militantes féministes, ou aussi en ouvrant un bar rue de Saint-Malo, au 9 de la rue de Saint-Malo, un bar qui s'appelait La Margelle et qui a été ouvert de 1981 à 1982, qui se revendiquait être un bar féministe.
Et il y a aussi une autre particularité, c'est que à Rennes, par exemple, c'est une ville où, pour ce qui concerne les mouvements lesbiens, comme le dit Lydie, comme il n'y avait pas de prégnance du MLF, etc., c'est la seule ville, à ma connaissance, où les lesbiennes se sont construites en partant du GLH, du groupe de libération homosexuelle, c'est-à-dire en se séparant des gays et non pas en se séparant des féministes. Voilà, ce qui est aussi une particularité de cette ville, dans la dynamique de l'époque.
Et il y a aussi une autre particularité, pour continuer à parler du mouvement lesbien. Je crois que c'est à Rennes, dans les années 90, qui a été organisée en France la première Pride gay et lesbienne, je crois.
Oui, c'est ça, absolument. C'est l'association Femmes Entre Elles, qui justement est née en 82, et qui en 93 a commencé les démarches auprès de David et Jonathan, qui était une association chrétienne mixte, gay et lesbienne, et auprès de, voilà, c'était essentiellement ça, pour que la Gay Pride devienne une lesbienne gay pride et que les lesbiennes soient visibles. Et donc ça a eu lieu entre 93 et 94, absolument.
Après avoir parlé peut-être des questions d'avortement, on va continuer à balayer l'histoire du féminisme à Rennes, mais cette fois-ci on va parler des questions de travail avec un petit extrait.
La première cause, ce sont les salaires. Nous avons des salaires très, très dérisoires. Nous demandons 2700 francs minimum. Bon, c'est ce qui est nécessaire pour vivre actuellement. Les conditions de travail également. Bon, les clients peuvent voir, par exemple, une caissière, c'est toujours faire des travaux répétés. Nous sommes beaucoup de femmes dans ce magasin et bon, tous les travaux sont déqualifiés, inintéressants, mal payés. Et ils en profitent. Bon, il y a du chômage. Ils savent très bien que les gens ont peur de perdre leur place.
On vient d'entendre une caissière de Mammouth en 1979 qui faisait grève sur la question des salaires, comme elle le dit. L'histoire du féminisme à Rennes, ou en général d'ailleurs, ce n'est donc pas que la lutte pour le droit à l'avortement ou le divorce à consentement mutuel. C'est aussi une question de salaire, une question purement matérielle sur le quotidien que vivent les femmes. Comment ça se passait? Comment est-ce que se mobilisait cette femme-là? Elle était militante à la CFDT à l'époque, il y avait peut-être des divisions entre les syndicats sur ces questions-là, ces questions féministes-là dans les années 70.
Ben, ce que raconte par exemple Guylaine Ménage, qui est donc militante aussi à l'histoire du féminisme à Rennes, c'est qu'il y a eu la mise en place de la commission femmes CFDT et que cette commission a fait un très très gros travail de conscientisation, de mobilisation, notamment à Mammouth, pour que les syndicats prennent en compte la question spécifique de la situation des femmes, ce qui est encore le cas aujourd'hui d'ailleurs, c'est toujours d'actualité. Après, ce qui est intéressant, pour ce que j'en connais de ces luttes ouvrières, parce qu'il y en a eu d'autres, il y a eu la SPLI, c'est que à chaque fois, la question des droits des femmes, y compris sur le plan contraception, IVG, parentalité, a été évoquée. Par exemple, pendant la grève de Mammouth, il y a eu la mise en place de permanence du planning. On n'a pas parlé du planning familial, mais qui a aussi une histoire très importante à Rennes. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que quand on parle du monde du travail et qu'on parle des femmes, en fait, on se retrouve à parler de la de ce qu'on appelait, le terme m'énerve toujours un petit peu, mais la condition féminine. Parce que ce que racontent par exemple les ouvrières de Mammouth, c'est que certaines, pour pouvoir occuper Mammouth, mentaient. Voilà, et ça a été pareil à la SPLI.
Oui, c'est vrai qu'avec Patricia Godard, on s'était posé la question, est-ce qu'on intègre dans notre recherche les luttes de femmes au travail ? Et en creusant un peu, ça nous est apparu évident, parce que comme le disait Françoise, en fait, quand les femmes, par exemple, de la Société parisienne de lingerie indémaillable occupent leur usine en 1978, en fait, c'est un grand moment d'émancipation pour elles, c'est un moment d'émancipation individuelle par rapport à un mari, par rapport à des frères, par rapport à un père, en fait, le fait de pouvoir rester la nuit à l'usine. Et c'est aussi un grand moment d'émancipation collective. Faire des choses ensemble, entre femmes, alors que habituellement, les femmes n'occupent pas l'espace public, c'est vraiment des moments importants qui peuvent changer la vie, qui peuvent changer le parcours d'une vie. Donc pour nous, ça a été assez évident que même si les actrices de l'époque ne se revendiquaient peut-être pas, sans doute pas féministes, en fait, dans leur posture, elles ont fait avancer les droits des femmes.
J'avais encore beaucoup de questions à vous poser, mais le temps passe et on a une grille à tenir. Juste peut-être une petite dernière. Pour vous, c'est très important de préserver la mémoire des combats féministes à Rennes, vous l'avez dit. Quelles sont vos actions en particulier, peut-être, pour préserver, les mettre en avant, peut-être aussi, ces combats féministes-là, pour les faire connaître ?
Alors en fait, on organise des déambulations dans la ville, donc l'une à partir de recherches et du travail de Patricia Godard et Didi Poré sur le féminisme à Rennes, les luttes féministes à Rennes dans les années 65-80, 90 même, et d'autres sur des femmes qui ont été importantes mais qui sont tombées, comme on dit, dans les oubliettes de l'histoire, alors que ce soit Louise Baudin, que ce soit Clotilde Vautier, Lucie Dreyfus, dont on ne parle jamais parce qu'on parle toujours d'Alfred, mais il avait une femme et qui a beaucoup œuvré. Je sens que je vais en oublier. Voilà, et donc là actuellement, il y a deux groupes de travail, l'un sur les luttes ouvrières à Rennes et l'autre sur l'éducation des filles. Il y a aussi une recherche en cours donc, sur le mouvement lesbien. On a des projets autour, grâce à Lydie, autour d'une résistante qui s'appelle Thérèse Pierre et qui donc est connue à Fougères, mais pas tellement à Rennes, alors que bon. Voilà, c'est-à-dire qu'il s'est passé beaucoup de choses à Rennes comme dans d'autres villes. Mais en fait, beaucoup de Rennais et de Rennaises ne connaissent pas ces figures-là. Et c'est l'occasion, en ramenant au contexte social et historique de l'époque, de faire de la transmission.
Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues nous parler d'histoire du féminisme à Rennes à nos micros.
Merci à vous.
Et merci à toi, Garante, pour cette interview. On vous rappelle que vendredi prochain, Lydie Poré donne une conférence au Champ Libre. Ce sera autour des luttes féministes à Rennes dans les années 70.